Oscar Miloš, Contes et fabliaux de la vieille Lituanie, Le prince et le valet infidèle. Il était une fois un fils de roi qui se nommait Jonas. Il ne rêvait que voyages et aventures, et ne manquait jamais une occasion de le rappeler à son père, qui lui répondait invariablement « Attendez, monsieur mon fils, d'avoir vos 20 ans. » Ce jour, si impatiemment attendu, arriva enfin. Ses augustes parents lui donnèrent leur bénédiction et lui choisirent pour compagnon de route le fils de sa nourrice, mauvais sujet accompli, sot et ignare, mais qui avait réussi à se faire bien voir de la cour pour ses coq-à-l'âne, pataquès et autres turlupinades, sans rien dire de certains beuglements qui secouait jusqu'aux oubliettes du château. Le jeune prince dit aux auteurs de séjour « Portez-vous bien, papa et maman, que Dieu vous ait en sa sainte et digne garde. » Après quoi, il piqua des deux et disparut au tournant du chemin avec son rusto de valet. Vers la fin du jour, il aperçoit à l'orée d'un bois un aigle prêt à s'abattre sur une colombe. Il épaule son tromblon, tire et atteint le rapace. Grand merci à vous, gentil damoiseau, roucoule la palonne. Vous m'avez sauvé des griffes d'un cruel magicien qui s'était changé en accipitre pour me déchirer sauvagement. Je suis la fille du chevalier invisible et mon père vous saura bon gré de ce que vous avez fait pour moi. Si jamais vous vous trouvez en mauvaise posture, dites seulement à moi, chevalier invisible. Vous le verrez aussitôt apparaître pour vous porter secours. » Ayant dit ces mots, la palombelle s'envola et les deux jeunes gens repartirent au grand trot. Après plusieurs aventures tout aussi banales et que les chroniqueurs se tenant quittes pour avoir rapporté la première n'ont pas voulu consigner dans leurs écrits, nos voyageurs se réveillèrent un beau matin au milieu d'un vaste désert qui semblait n'avoir point de fin. Tourmenté par la soif, le prince se jetait tantôt à gauche, tantôt à droite, sans découvrir nulle part la moindre goutte de rosée. Mais les coursiers, qui souffraient comme leur maître, finirent par trouver ce que ceux-ci cherchaient en vain. Non pas, certes, qu'ils fussent beaucoup plus habiles que ceux qui les montaient, mais parce que leur instinct les détermina, contre la volonté des deux baies jaunes, à poursuivre leur course en droite ligne, au lieu de décrire d'élégantes et inutiles sinuosités. Ils arrivèrent donc, par ce chemin justement estimé des géomètres, à un puits d'une extraordinaire profondeur. Le jeune seigneur commanda à son valet d'y descendre pour lui rapporter de l'eau dans son bassinet ou sa capeline, car on n'a jamais su au juste si ces événements étaient du 9e ou du 17e siècle. L'insolent et perfide fils de nourrice répondit avec un ricanement. « Et quand je serai arrivé au fond, que je dis, noble sire, qui m'en retirera? Vous, peut-être ? Pour mieux vous nourrir, ma mère m'a confié à une gaillarde autrement solide qu'elle, à savoir une vache crémière dont le beuglement amoureux s'entendait nulle lieu, même en temps d'orage, au milieu du fracas de la foudre. Fils qu'elle était entêtée, rétive. Ah, c'est rien de le dire. J'en ai donc bu par Bacchus du bon lait. Aussi, regardez-moi ça, par devant et par derrière. Pas une livre de graisse, rien que de la viande. Comme c'est moi le plus fort, c'est donc vous qui descendrez, et plus vite que ça ne vous en déplaise. Pigez-moi cette musculature d'enfant de nourrice et de nourrisson de mamelu, et surtout ces biceps. Ça vous enlève comme une plume, mon prince. Allez, oust !» Plus diplomate que guerrier, l'héritier de la couronne se dit dans son cœur « J'aimerais peut-être mieux me voir environner des chansons, mais nécessité n'a point de loi. Et puis, un dauphin déroge-t-il en s'en plongeant dans les ondes ? Il descendit donc assez prestement pour un fils de roi, bu avec délice, et, ayant rempli l'outre pour le valet et les chevaux, secoua la corde pour faire connaître au marron qu'il la pouvait tirer. Mais le vilain, montrant son affreuse tête de rougeau par-dessus la margelle, lui débita en annonçant ses lieux communs, appris sans doute dans quelque réunion publique. « Depuis le berceau, vous vivez comme un coq en pâte, citoyen, sans posséder d'autre mérite que celui, assez mince, d'être le fils du roi votre père, ou peut-être seulement de la reine votre mère. Ce qui, vous en conviendrez, est bien peu de chose au regard des vertus d'un député ou d'un conseiller municipal. Or, que dit la déesse Raison ? Au toit de là, que je m'y mette, pas ? Eh ben, je ne vous retirerai du puits que lorsque vous m'aurez signé un billet où il sera dit que c'est moi qui suis l'héritier du trône Jonas. » Le malheureux prince fit ce que lui ordonnait le traître. En sortant du puits, il échangea ses vêtements contre ceux de son serviteur. Le soir même, le dauphin devenu valet et le valet métamorphosé en dauphin atteignaient les limites du désert et frappaient à la porte d'une magnifique résidence royale. L'usurpateur alla sur le champ trouver le souverain étranger, son hôte, et lui adressa un long discours dont nous ne reproduirons que ces passages essentiels. « Entrez go, monsieur mon frère, y a pas à se gêner, pas ?»« Ou ce qui y a de la gêne, y a pas de plaisir ?»« Ceci dit, voilà ce qui m'amène. » « Vous avez, à ce qui paraît, monsieur mon frère, etc., une fille, belle comme le jour. Mon émissaire qui l'a vue et qui est notre poète lauréat a fait sur elle tout un sonnet, avec un nez de corail, des yeux de miel et de lait, des oreilles de lys et de rose, et que sais-je encore. Bref, il me la faut tout de suite, ou je vous déclare la guerre, séance tenante. Vous savez qui je suis, puisque vous tremblez, j'ai dit. » Le malheureux roi, dans son extrême ahurissement, n'attendit pas son ministre des Relations extérieures pour répondre à cet ultimatum. « À vous dire le vrai, monseigneur, je n'entends pas grand-chose aux méthodes de la nouvelle diplomatie. Je veux croire que c'est là un langage à la dernière mode de Versailles, puisque vos États sont moins éloignés que les miens du département de Seine-et-Oise. » Vos paroles, néanmoins, me sont allées droit au cœur, car elles respirent la bonne santé et la passion. Je vous accorde la main de l'infante Aldona, mais il vous faudra attendre 2 ans, car mes sujets ont fêté 10 fois à peine l'anniversaire de sa naissance. Mon envoyé secret se trouve actuellement auprès du Raja de Masulipatam. Cependant, pour obtenir une paix avantageuse de ce monarque, il me faudrait frapper un grand coup. C'est moi qui le lui foutrai, et en pleine gueule, beugla son Altesse royale, le fils adoptif de la rétive bretonne. J'irai, je verrai, je vaincrai. Le faux dauphin court à l'écurie retrouver le vrai, et le met en 2 mots au courant de tout. Celui-ci quitte aussitôt ses vêtements, se glisse dans ceux du valet, c'est-à-dire les siens, s'arme de pied en cap, enfourche son pas le froid et coursus à l'ennemi campé sous les murailles du château. Avant de se jeter sur le général en chef du Raja, il s'écrie « À moi, chevalier invisible !» Le chevalier est déjà à son côté. « Tu as sauvé la vie à un pigeon, sans même savoir que le volatile était mon enfant. » De satin blanc, vêtu, tel un pontife, je tire mon épée de rose-croix et te fais chevalier. Tant pis si je suis blagué dans les nouvelles militaires par le grand Frédéric. Maintenant, lève-toi et en avant. Les troupes du Raja prennent aussitôt la fuite et ne s'arrête que sous les murs de Masulipatam. Or, la fille du roi, cachée dans une mangeoire, avait non seulement entendu le colloque des dauphins, plein d'allusions aux billets signés dans le puits, mais encore admiré pendant l'échange des vêtements l'anatomie raffinée du vrai prince, si élégante à côté de la structure bovine de l'usurpateur. Elle courut trouver le roi son père, lui révéla toutes ses noires machinations et, cachant son charmant minois dans son grand cordon de Saint-Arnulphe, lui avoua le tendre sentiment que lui avait su inspirer son vrai fiancé. Le roi, que la victoire de l'invisible avait singulièrement enhardi, et qui s'en attribuait en secret tout le mérite, la considérant comme un triomphe de sa diplomatie personnelle, triomphe d'autant plus agréable que ni sa maîtresse ni ses ministres ne se pouvaient vanter d'y avoir eu la moindre part, le roi fit appeler à son de trompe tous les habitants du château. Et, dès que ceux-ci furent réunis dans la rutilante salle du trône, il ordonna au faux dauphin, par la voix du héros, d'exhiber ses parchemins. « Ils ne peuvent être que conformes à la vérité, observa-t-il finement, puisqu'ils sortent d'un puits. » Le valet infidèle jeta insolemment son billet sur les marches du trône. Le héros le ramassa, donna trois coups de hallebarde à la dalle de Carrare et lut d'une voix de centaure ce qui suit. « À tous présents et à venir, salut !» Le porteur des présentes, incapable de les lire, vu sa qualité d'illettré, est le fils de Madame notre nourrice. Et nous, qui les délivrons à ce bec cornu, nous sommes l'héritier légitime du trône d'Hyperborée. Donné dans le puits, tel jour, de tel mois, de telle année, Jonas. Le vrai prince épousa Aldona bien avant la date fixée par son royal beau-père. Depuis la fameuse scène de l'écurie, l'infante ne cessait de soupirer, écartant avec dédain les parures dont on la comblait pour dissiper ses vapeurs. Il n'était plus pour elle d'autres joyaux au monde que celui qui donne de l'éclat aux yeux des dames dans les romans de M. Arouet de Voltaire. Le temps, l'impitoyable temps, a plongé dans l'oubli les événements et les héros de ce petit conte, mais telle est la pérennité des choses de l'esprit que, de nos jours encore, on voit des messieurs constellés sourire secrètement dans les salons politiques et les chancelleries en murmurant le bon mot inspiré au père d'Aldona par le fameux billet.